Bonjour ou rebonjour selon les cas. J'aimerais vous partager ce matin quelque chose qui c'est un petit peu le résultat de ces derniers mois de réflexion, de méditation. Et puis ça va aussi introduire ou expliquer, présenter ce qu'on va vous partager après à l'Assemblée Générale, en tout cas ce que je vais vous partager. C'est ma petite part, sur la vision spirituelle pour l'année à venir. Enfin, rien de révolutionnaire ou de grand changement, mais quand même une direction qui se précise, on va dire. Et pour ça, j'aimerais vous lire un texte qui est un petit peu long, mais je crois que ça vaut vraiment le coup qu'on le lise. Alors, Luc 24, à partir du verset 13, et on va lire jusqu'au verset, je vais lire jusqu'au verset 49, et puis, je lis dans la traduction du semeur, au cas où. Le même jour, donc ça c'est après que les femmes aient vu Jésus ressuscité, et puis que Pierre et Jean aient couru jusqu'au tombeau et trouvé le tombeau vide. Hein. Le même jour, deux disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit « De quoi discutez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci ? » Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs, des prêtres et des dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ah là là, homme sans intelligence !» Pour une fois, dans le texte, c'est homme, là, c'est pas homme et femme. Hein. Parce que les femmes, elles l'ont vu le matin. C'est intéressant de noter quand même. Vous êtes bien là à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, ça en fait des livres, hein. Les livres de Moïse plus tous ceux des prophètes. Vous imaginez un peu? C'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. J'ai toujours dit que quand j'allais arriver au ciel, une des choses que je voulais faire, c'est regarder la vidéo de cette étude biblique. Celle-là, elle doit être pas mal. Hein ? Entre-temps, ils arrivèrent près du village où il se rendait. Et Jésus sembla vouloir continuer sa route. Mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et, avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais déjà, il avait disparu. Ils se dirent l'un à l'autre, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem, 12 kilomètres. Philippe, ça fait quoi ? 2 heures pour un bon marcheur si ça ne monte pas trop, c'est ça ? Hein ? 2 heures et demie. Surtout qu'ils l'ont déjà fait dans l'autre sens, quoi. Et là, il fait nuit. Ils trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ses paroles. « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. » Alors, les deux disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Et Jésus apparaît aux onze pendant qu'ils s'entretenaient ainsi. Vous savez, dans une pièce de théâtre, ça c'est la voix qui est derrière qui dit ce qui se passe, hein, parce que après ça reprend le dialogue. Et Jésus lui-même se trouva au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Ils furent saisis de crainte et d'effroi, croyant voir un esprit, c'est-à-dire un fantôme. Hein. « Pourquoi êtes-vous troublés ?» leur dit-il. Jésus a beaucoup d'humour. Quand même, hein. « Pourquoi les doutes envahissent-ils votre cœur ?» Regardez mes mains et mes pieds. Reconnaissez que c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, car un esprit n'a ni chair ni os. Or, vous voyez bien que j'en ai. Tout en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais ils étaient si heureux qu'ils ne parvenaient pas à croire et restaient dans l'étonnement. Alors il leur demanda, « Avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea sous leurs yeux. Puis il leur dit, « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Et là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. « Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le troisième jour, qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qui doivent se repentir pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes les témoins de ces événements. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc, restez ici dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Voilà, un très très beau texte, très riche. Je pense qu'on pourrait décider de parler dessus tous les dimanches de matin pendant l'année et on ne ferait pas le tour, hein, tout ce qu'il y a là-dedans. Mais je vais brièvement sortir quelques idées ce matin. Si on reprend le texte au début, donc on a ces deux hommes-là, ben voilà, c'est la fin de l'histoire, Jésus est mort, il y a les femmes qui l'ont vu, mais comme tout le monde le sait, on ne peut pas faire confiance au témoignage des femmes, donc elles sont trop émotionnelles, etc. Donc voilà, ils s'en vont. Et puis là, ils sont en train d'échanger leurs réflexions. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, j'ai trouvé ça intéressant. Jésus va les rejoindre à ce moment-là. Ils étaient en train d'échanger leurs propos et leurs réflexions. Des fois, on peut se dire, ouais, mais à quoi ça sert? On se retrouve, on partage des choses, on ne sait pas trop. Non, oui, ils n'ont rien compris. Alors, ils sont passés complètement à côté pour le moment, ça c'est sûr. Hein. Ils ont vécu des choses, mais sans les comprendre. Mais ils ont au moins un mérite, ils en parlent. Ils ne disent pas, bon, ok, ça c'est fini, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Ben écoute, moi je me remets au foot et toi, moi à la pêche, non, moi le rugby, on va trouver. Non, non, ils parlent de ce qu'ils ont vécu et qu'ils ne comprennent pas. Alors, encore une fois, ils sont passés à côté, mais ils en parlent. Et c'est à ce moment-là que tout d'un coup, Jésus est là sur le chemin. Pouf, hein. Là, c'est vraiment à la Marie Poppins, hein, comme on disait, il ne courait pas après, tout d'un coup, il est là. Et puis, quand même, si on faisait ça en pièce de théâtre ou si on l'écrivait comme une histoire, hein, Jésus s'amuse. C'est le chat et la souris, quoi. Ils sont là en train de parler, ils n'ont rien compris. Et lui, il est là à côté. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? De quoi vous parlez? Comment? Tu n'es pas au courant? Ah non, de quoi? Mais je ne sais pas. Non, c'est assez comique, quand même. Imaginez ça, quoi. C'est de lui qu'on parle. Hein. Et puis, ils ne l'ont pas reconnu. En fait, j'ai relu pas mal les évangiles ces derniers temps, et pratiquement sans exception, ils ne l'ont pas reconnu après la résurrection. Et pourtant, ce n'était pas un fantôme, puisqu'il leur dit, oh, allez, je peux manger du poisson, toucher mes mains, etc. Quoi. Alors, ça soulève beaucoup de questions. Hein. Je ne vais pas y répondre. Mais c'est intéressant. Ce n'était pas un fantôme, mais on ne le reconnaît pas au premier abord. Hein. Et en tout cas, ce que j'en tire pour moi, c'est que connaître quelqu'un, ce n'est pas savoir à quoi il ressemble physiquement. Ça peut changer. Demain, je peux avoir un accident, tomber dans un feu, on me soigne, mon visage n'est plus le même, avoir une grave maladie, je perds 30 kilos, vous ne me reconnaissez pas, je me mets une perruque, vous ne savez pas qui c'est. Mais ce n'est pas moi tout ça. Quand je vais commencer de parler, quand on va échanger, ah mais c'est lui. Oui, on se connaît. Donc ce n'est pas notre apparence physique qui détermine qui on est, c'est réellement qui on est. Et donc Jésus avait sûrement pas la même apparence physique qu'avant sa crucifixion, ça, sinon il aurait reconnu. Mais on va voir que c'est plus tard qu'ils le reconnaissent. Mais en tout cas, il est là, ils ne savent pas, et puis ils expliquent. Nous avions espéré qu'il serait le sauveur d'Israël, etc. etc. Et très souvent, la première raison pour laquelle on ne reconnaît pas Jésus, c'est parce que nous espérons qu'il ressemble à. Nous espérons qu'il pense comme ça. Nous espérons qu'il agisse comme ça. Nous attendons quelque chose. Pour ceux qui ont une très bonne mémoire, il y a plusieurs années, j'avais partagé un dimanche matin sur « Chercher ma boîte bleue qui était grise ». Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, Marinette s'en rappelle. Hein. C'était la veille d'une foire où je fais du grimage pour les enfants. Et j'ai retourné mon bureau toute la journée, là, ici à côté, pour trouver ma boîte de maquillage bleue, qui était bleue, j'en étais sûr, et j'ai cherché partout. Je ne l'ai pas trouvée, je n'ai pas fait de grimage le lendemain, j'étais triste. Mais qu'est-ce que j'ai fait de cette boîte bleue ? Un mois après, en rangeant mon bureau, j'ai trouvé mon maquillage dans une boîte grise. Elle était devant mes yeux, mais je ne l'ai jamais ouverte, puisque je cherchais une boîte bleue. Pourquoi je la croyais bleue, j'en sais rien, mais elle était grise. Et c'est exactement ce qui se passe là. Jésus est à côté d'eux, mais ils ne peuvent pas le reconnaître parce qu'on espérait que Jésus serait comme... Alors pour eux, ils espéraient que Jésus, ça serait un grand soldat, ou en tout cas un grand chef, qu'il allait libérer Israël, virer les Romains, prendre le pouvoir, construire de nouveau le temple. Ils avaient leur schéma, comment ça allait se passer, et en fait, il est là. Et ils sont en train de lui expliquer qu'il n'est pas là, et qu'il est mort, et qu'on s'est... Et je me dis, combien de fois c'est comme ça dans ma vie ? Seigneur, franchement, tu n'es pas là, je ne comprends pas, je t'avais demandé, je t'avais dit, tu m'avais dit que... Puis Jésus, il marche à côté, puis il sourit, et puis il pose des questions. Et moi, je suis fâché, je suis en colère, je ne vois pas. Ouais, franchement, Jésus de nos jours, rien du tout, les miracles, c'est fini. Hein. C'est ce que pouvaient dire ces gens-là, et Jésus est là sur le chemin avec eux. Mais ils avaient leur idée. Hein. C'est pour ça que quand on s'expose à la parole de Dieu... Quand on lit et qu'on médite, parce qu'on va en venir là, la parole de Dieu, on doit, c'est le plus difficile, commencer par faire silence et par pas dire à Dieu ce qu'il faut qu'il nous dise. Sinon, on ne va jamais le rencontrer, on ne va jamais le voir, parce qu'on cherche ce Jésus-là, et on a chacun le nôtre, hein, on a chacun notre idée, quoi. Mais il n'est pas comme ça, il est autrement, parce qu'il n'est jamais pareil dans l'apparence, c'est toujours lui, mais on ne le reconnaît pas sur le chemin. Hein. Donc, voilà. Et Jésus les écoute tranquillement. Alors, il raconte, quand on voit ce qu'il raconte après, je ne vais pas le relire, hein, au niveau des faits, ils sont corrects, hein, ils n'ont pas déformé la vérité. Voilà, il s'est passé ça, les femmes ont été, elles l'ont vu, Pierre et Jean y ont été, ils ont vu, ils savent tout. Ben, ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas rencontré, ils ne sont pas ouverts, ils savent juste des faits. Et je me dis, combien de chrétiens vivent comme ça ? En sachant des choses que la Bible dit. On sait les choses, on sait, on connaît les versets, les références, les endroits, doctrine, la catégorie, le machin, le truc, le livre, ça parle de ça. Mais Jésus, ben, c'était il y a longtemps, quoi. Aujourd'hui, ben, voilà, quoi. Et Jésus, homme sans intelligence, vous êtes bien lent à croire, à faire confiance dans tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir de toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ? Et commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, il leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans les Écritures. Si on ne cherche pas à rencontrer Jésus dans les Écritures, on les lit pour rien, on les étudie pour rien. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas les lire et pas les étudier, au contraire, c'est mon sujet de ce matin. Il faut les lire, la Bible, et il faut la comprendre. Si je ne la lis pas, ben je ne sais pas. Si je la lis sans la comprendre, je ne sais pas. Mais je dois la lire et la comprendre avec cette idée que, quelque part là, sur ce fouillis de chemin que sont les pensées de la parole de Dieu, Jésus se promène quelque part. Et moi, je ne sais pas où. Et comme il ne ressemble jamais extérieurement à la dernière fois que je l'ai rencontré, je ne peux pas me baser sur ma vue pour le reconnaître. Mais à un moment, je n'ai pas à le chercher. C'est lui qui va me rejoindre. On n'a pas ici des disciples qui sont là, ouais, « Seigneur, viens, Seigneur, oh Seigneur, viens !» Non, ils n'ont rien compris, ils parlent. Je ne comprends pas, je croyais pourtant quand même, c'est bizarre, on avait l'impression que c'était ça. On a bien vu les miracles et tout. Ouais, moi aussi, j'ai cru, hein, et pourtant, ah, ça tout a foiré, il y en a marre. Et là, Jésus arrive. Et il commence à discuter avec eux. Et il leur explique. Et pour nous, ça doit être comme ça. Quand je lis les Écritures, je les lis pourquoi ? Pour soulager ma conscience, je pense qu'on a un peu passé dessus maintenant, j'espère. Mais ça peut encore être là. Hein. Ah, j'ai lu mon chapitre, j'ai lu mon lecteur, j'ai lu mon plan pour lire la Bible en une année, j'ai lu ça, j'ai fait mon devoir. Si Dieu voulait me parler, il n'avait qu'à le faire. Et puis voilà. Puis, de toute façon, ce qui compte, ce n'est pas les émotions, c'est par la foi. Donc, je crois ce que j'ai lu. Je vais essayer de le mettre en pratique aujourd'hui. Il y a quoi de différent entre ça et prendre n'importe quelle morale à peu près correcte et puis d'essayer de la mettre en pratique ? Ce n'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité et qu'il y a eu des témoins de cette résurrection. Et nous, nous avons été appelés, hein, je saute à la fin, je reviendrai un peu sur le reste après. Vous êtes les témoins et vous serez mes témoins. Et le livre des Actes commence comme ça, vous serez mes témoins. Jésus n'a pas dit, vous serez mes représentants de commerce, vous serez des vendeurs, vous serez des... Il n'a même pas dit des enseignants. Il a dit, vous serez des témoins. Mais un témoin, si on demandait à Marc, il pourrait nous expliquer plus précisément qu'est-ce que c'est un témoin. Hein ? Un témoin, c'est quelqu'un qui était là quand ça s'est passé. Sinon, ce n'est plus un témoin. Hein ? Quand quelqu'un vous raconte une histoire et puis au moment, tu dis, mais tu l'as vu toi ? Non, c'est, tu sais, le copain de mon frère, là, j'ai pris l'apéro avec lui et il m'a dit que sa tante lui avait dit que... Ok, bon, ciao. Hein ? C'est plus fiable l'histoire, quoi. Hein ? Par contre, si la personne vous dit « oui, j'y étais », alors forcément, ça sera subjectif. Hein. On le sait, 10 témoins du même accident, il y a 10 histoires différentes. Mais pas 10 histoires contradictoires, 10 histoires légèrement différentes, parce que chacun l'a vu avec ses yeux, sa subjectivité, l'endroit où il se trouvait, et ce qu'il a touché lui. Mais il a été témoin. Si nous rencontrons jamais Jésus dans nos vies, dans les Écritures, dans la lecture, dans l'étude, dans la méditation, dans nos rassemblements, mais on va être témoin de quoi ? Il y a des bonhommes qui sont morts il y a 2000 ans, ils ont dit à des gens qui sont morts il y a 2000 ans et un peu moins, qui ont dit à des gens qui, que Jésus était ressuscité, et puis c'est bien. Hein ? Waouh ! Ça va faire brûler nos cœurs. Hein ? 2000 ans que du bouche à oreille, ils se répètent des trucs, puis il paraît que c'est vrai, quoi. Non ? Ça doit être sacrément déformé. Alors oui, les textes sont arrivés jusqu'à nous, Dieu les a gardés, ça c'est un miracle. Hein. C'était pas possible sinon. Mais nous rencontrons Jésus. Alors bien sûr, pas physiquement, hein, mais nous rencontrons Jésus. Parce que il y a tellement de choses dans ce texte, mais une des choses qui est extraordinaire, c'est que donc Jésus leur explique, mais sur le coup, ils ne réalisent pas ce qui se passe. C'est souvent comme ça. Les plus belles, les meilleures, les plus fortes choses qu'on vit, c'est après qu'on s'en rend compte. Ce n'est pas au moment où on les vit, parce que quand on les vit, on est pris dedans. Hein. Et donc, ils n'ont rien compris, ils sont là. Et Jésus leur fait une superbe étude biblique sur l'Ancien Testament, sauf que celle-là, elle n'est pas ennuyeuse, parce que c'est lui qui parle de lui. Et pour une fois, c'est bien. Normalement, ce n'est pas le but que nous, on parle de nous, mais lui, il peut parler de lui. Et ils ne comprennent pas tout, mais il y a quelque chose qui se passe. Ensuite, ils vont manger ensemble. Et là aussi, Jésus joue. Hein. Ok, les gars, ciao, ouais, parce qu'il s'arrête au village, moi je continue. Quoi. Il fait semblant de vouloir partir, mais il sait qu'il veut rester. Hein. Jésus joue beaucoup pour créer des situations qui permettent qu'on le rencontre et qu'on le reconnaisse. C'est toujours lui qui prend l'initiative. C'est un merveilleux amoureux. Il arrange les choses comme ça. Oh, mais écoute, ouais, c'est tard, ça, reste manger avec nous. Quoi. C'est quand même intéressant ce que tu nous racontes. Je sais pas. Allez, on n'a pas grand-chose, on va partager un morceau, comme ça, à la bonne franquette entre nous. Il s'assoit, et puis là, l'air de rien, Jésus prie pour bénir le repas. Et c'est là qu'ils le reconnaissent. Et au moment où ils le reconnaissent, qu'est-ce qui se passe ? Il disparaît. Alors, ça, c'est terrible, ça. Ça, c'est terrible ! Vous imaginez ? Jésus est mort, bon, il leur explique, ils n'ont rien compris. Ils le reconnaissent et à cette seconde-là, paf, il disparaît. Alors, c'est magnifique. Hein. Mais c'est horrible. Mais c'est ça. Et vous savez, c'est une des caractéristiques de nos rencontres avec Jésus-Christ. Il faut faire attention quand on fait des parallèles dans ce domaine-là, mais quand même on peut. Hein. Jésus veut vivre avec chacun de nous une histoire d'amour. Et il est le roi, le meilleur des meilleurs, pour créer une relation sans accoutumance. Au moment où on croit que, paf, il n'est plus là. Puis la prochaine fois, il ne va pas ressembler, il ne va pas être sur ce chemin. Je veux dire, hein, imaginez si ces deux bonhommes-là, ils ont passé le reste de leur vie à refaire le chemin de Jérusalem à Emmaüs, tous les jours, aller-retour, deux fois par jour. Parce que c'est là qu'on a rencontré Jésus. Il n'a plus jamais marché sur ce chemin, avec des... enfin, peut-être, mais probablement pas. Non, il est ailleurs. Et ça, c'est comme ça dans nos vies aussi. Par contre, il y a une chose, quand rétrospectivement, ils se disent « Mais oui, mais c'est vrai, mais c'est bien sûr. Hein » C'est pour ça que les disciples de Jésus ont le front plat. Après coup, ils disent « Mais oui, mais c'est bien sûr. » Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous disait ces choses-là? Et là, ils deviennent témoins. Ils n'ont pas tout compris, on va voir après qu'ils n'ont encore rien compris. Mais ce n'est pas une question de compris ou pas compris. Ils ont rencontré Jésus ressuscité et ça a fait ébullition dans leur cœur et ça sort. Si on rencontre Jésus-Christ, je ne parle pas de ce qu'on appelle nous dans les églises évangéliques, la conversion. Genre, c'est comme si on disait je vais me marier avec quelqu'un, hein, et puis vous le rencontrez une fois, puis après vous ne la voyez plus jamais, vous êtes marié. Et puis quand on vous demande comment va votre conjoint, vous parlez du jour du mariage, toute votre vie. Bizarre. Mais les chrétiens font ça. Vous avez un témoignage? Oui, il y a 60 ans de ça, j'ai rencontré Jésus-Christ. C'est super. Et puis, il y a 60 ans de ça, j'ai rencontré Jésus-Christ. Oui, et puis, voilà. Et au ciel, je le reverrai. Waouh, c'est long entre les deux. Une vie d'homme. Non. Je rencontre Jésus-Christ et je rencontre Jésus-Christ et je rencontre Jésus-Christ, sauf que je ne peux pas le fabriquer. Des fois, j'aimerais tellement le rencontrer, il ne se passe rien. Et puis des fois, je suis là, j'en ai marre, je retourne à la pêche ou je suis en train de marcher. Et puis tout d'un coup, il est là. Il est là à côté de moi sur le chemin, il est là au bord, il a fait du feu. Et là, il est là dans la barque, il est là ailleurs. Où il... Et puis, il ne ressemble jamais à la même personne. C'est lui, mais il n'a pas la même apparence. Et là... Les choses prennent un autre sens. Parce que, au milieu de ce texte, il y a une action qui est précise. Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils étaient en train de fuir Jérusalem, d'abord parce que l'histoire se terminait, parce qu'elle s'est mal terminée, parce qu'ils étaient en danger, parce qu'ils avaient peur, tout ça. Faut pas... La crucifixion, ce n'est pas un petit machin sympa, quoi. Et si maintenant ils faisaient, comme les Romains avaient des fois l'habitude de le faire, une rafle là où ils récupèrent tout ce qui était lié avec ce mouvement-là, et puis ils décident de tous les crucifier. Donc ils ne sont pas en train de partir parce qu'ils ont une vague déception sentimentale. Ils sont en train de fuir pour sauver leur peau, parce que la croix et tout le reste, ce n'est pas rigolo, quoi. Mais là, tout d'un coup, parce qu'ils ont rencontré Jésus, même si de nouveau il a disparu, parce que leur cœur est entré en ébullition, qu'est-ce qui se passe? Ils ne se disent pas, alors on va faire un comité pour réfléchir à la résurrection de Jésus-Christ, voir si c'est faux. Non, ils prennent le chemin, ils repartent pour témoigner de ce qu'ils ont vu, tant pis si on les chope, s'ils vont mourir, si on va les... Ils n'y pensent plus, ils vont jusqu'à Jérusalem, je suis sûr qu'ils ont été beaucoup plus vite dans ce sens que dans l'autre. Et là, ils vont rejoindre qui? Les autres disciples. Et là, on a dans ce texte-là, alors je sais qu'il ne faut pas être idéaliste, mais tant pis, je le reste, on a l'Église parfaite, dans le sens où il n'y a pas quelqu'un qui a dit « on va faire un programme pour retourner à Jérusalem témoigner ». Non. Ils vivaient ce qu'ils avaient à vivre, ils en parlaient, ils rencontrent Jésus, ça les bouleverse, ça les met en mouvement et ils font quelque chose. C'est pour ça que Jacques, quand il prend le processus de vie par l'autre bout, il dit « quelqu'un qui ne fait rien, c'est qu'il est mort. Et s'il est mort, c'est qu'il ne connaît pas Jésus. Hein » Quand il dit « s'il n'y a pas les œuvres, c'est qu'il n'y a pas la foi. Et s'il n'y a pas la foi, il n'y a rien. » Mais il dit la même chose. Mais là, on a le processus dans le sens naturel de la vie. Ils marchent, Jésus est là, ils entendent, ça bouleverse leur vie et ils se mettent en mouvement. La seule chose, c'est quand on fait ça, on ne maîtrise plus rien, on ne contrôle plus grand-chose, on ne peut plus trop faire de programmes, on peut difficilement faire des projets sur beaucoup de choses, parce que où on va le rencontrer la prochaine fois, ben, on ne sait pas. Ça va nous motiver à faire quoi ? Ben, on ne sait pas. En fait, ça, ce n'est pas notre problème. Le mot problème n'est pas bien. Notre responsabilité, notre désir, notre motivation, le cœur de notre vie en tant qu'enfant de Dieu, ça doit être quoi ? Être d'accord pour rencontrer Jésus. Vivre en étant des guetteurs. Il est où ? Parce qu'il peut être n'importe où. Est-ce qu'il a des lunettes aujourd'hui ou pas ? Est-ce qu'il a une moustache ou non ? Est-ce qu'il est chauve ou pas ? Est-ce qu'il est blonde ou pas ? On ne sait pas, on ne sait pas. Dieu est tellement créatif, en plus d'être créateur, qu'il n'aime pas les recettes réchauffées. Dieu a horreur du truc là, tout, hein, vous savez. Travailler à la chaîne, les habits tous les mêmes. Non, c'est chaque parole de Jésus, chaque acte de Jésus, chaque mouvement, chaque pensée est une création unique. Et je ne suis pas en train de dire là qu'il ne faudrait plus avoir de salle, plus avoir de forme, plus d'heures pour se rencontrer. Ce n'est pas ça. Vous connaissez ce beau proverbe que Marc nous a lu la dernière fois quand on avait le culte des aînés ? Je vais terminer, ne vous affolez pas. Il a dit, il ne faut pas rajouter des années à la vie, mais de la vie aux années. Eh bien, on peut faire la même, paraphraser ça en disant, il ne faut pas de nouvelles formes ou d'autres formes ou pas de formes à l'Église. Il faut juste mettre de la vie dans les formes. On est des êtres humains, on a un corps, on aura toujours des formes. La recherche perpétuelle d'absence de formes, moi j'ai essayé, je suis un peu un fanatique, donc j'ai essayé jusqu'au bout. Mais ça aboutit à une forme. C'est la recherche de toujours pas avoir de forme. C'est une forme. Donc, on s'en fout. Ce qui compte, c'est où on rencontre Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai rencontré des chrétiens qui vivaient dans la liturgie orthodoxe et qui rencontraient Christ, des catholiques qui vivaient dans la tradition catholique qui rencontraient Christ. Heureusement, quelques évangéliques qui vivaient dans les traditions évangéliques et qui rencontraient Christ. Un peu moins que les autres, mais aussi... Non. Etc., etc., parce que c'est pas important les formes. La question c'est est-ce que dedans j'y trouve Christ ou pas ? Par contre, si à un moment une forme m'empêche de rencontrer Christ, alors il faut la brûler. Mais sinon, c'est pas un souci. Hein ? Et il est partout. Et il n'est jamais deux fois pareil. Donc on ne peut pas dire maintenant parce qu'on va chanter 20 minutes et là. Mais des fois il y est, des fois il n'y est pas. Et puis, alors, donc on doit avoir nous une façon de vivre parce qu'on est humain et qu'on ne peut pas tout improviser n'importe comment. Mais la question, ce n'est pas du tout l'extérieur et les formes. C'est quelle est notre optique et qu'est-ce qu'on veut comme motivation pour nos activités. Alors bien sûr, il y a aussi la notion, et elle est claire dans la Bible, de, je comprends que Dieu veut quelque chose pour moi parce qu'il m'a touché un moment. Et là, je m'engage à le faire et je ne vais pas me demander à chaque fois que je le fais si c'est la volonté de Dieu ou pas. Hein. Il faut être un peu intelligent aussi. Quoi. Et puis, il y a beaucoup d'autres textes qui parlent de ça. Mais voilà, ce que je voulais souligner ce matin, et je termine avec ça, c'est qu'on a besoin de lire nos Bibles, on a besoin de les comprendre, mais on a surtout besoin d'y rencontrer Christ. Et ça, c'est par la méditation, par la prière, mais pas la prière « Je te demande, Seigneur, de... » La méditation et la prière qui se fondent pour être un dialogue où on se tait et où on attend et on s'attend à Dieu. La prière et la méditation qui est faire le guet. Je suis toujours impressionné quand je marche ici dans la région de la patience des chats et des hérons gris. Des heures devant un trou. Puis si vous ne les dérangez pas, mais vraiment, une fois, je suis resté un moment, mais incroyable. Un quart d'heure, ils ne bronchent pas. Pourquoi ? Ils ont un objectif. Il y a de la bouffe là-dedans. Alors, des fois, ils ne sortent pas, parce que vous savez, les souris, enfin, les rats aux pieds, ils ont plusieurs issues, quoi, tu vois. Et il y a les mauvaises journées, c'est les journées où vous passez la journée comme ça, et ils sortent par les autres trous. Le soir, vous avez faim, c'est pas grave. Le lendemain, ils vont chercher un autre trou, ou le même, et ils vont revenir. Et ils sont concentrés, parce qu'ils veulent manger. On doit être comme ça, quand on visite la parole de Dieu. Où est Jésus ? En fait, il faut se détendre. Il va me trouver. Mais je veux qu'il me trouve, et comme je ne m'attends pas à ce qui ressemble à quelque chose de particulier, je suis juste disponible. Ouais. Je suis un peu ce matin. Voilà, hein, mais c'est ça. Et puis des fois, on est comme ça, puis au bout d'un certain temps de méditation, que ce soit 10 minutes ou 3 heures, notre cœur ne s'est pas embrasé, il ne se passe rien, voilà. Dieu est fidèle, il est toujours vivant, il est toujours là, mais ce n'est pas grave. Et puis des fois, on part de là déçu, et puis on prend la voiture, et puis là, paf, il était dans la voiture. Ah hein, voilà. Et du coup, la vie devient intéressante. Alors, moi, je vous encourage à relire ce texte, tranquillement, mais tranquillement. Pas pour arriver au bout. Un monsieur dont je vous parlerai bientôt, que j'apprécie beaucoup, je suis en train de voir pour l'inviter l'an prochain, il parle d'une lecture délicieuse et savoureuse des Écritures. J'aime ça. Une lecture délicieuse et savoureuse des Écritures, où on prend le temps de la lire, et puis de revivre, si c'est une histoire comme ça, de la revivre. Le même jour, deux disciples se rendaient à un village. Alors voilà, hop. Il y a un village, il y a Jérusalem, il y a un chemin. Au bord du chemin, il y a des vaches. Là-bas, il n'y a pas des vaches, mais chez nous, il y a des vaches. Et puis, il y a des hérons, et puis, il y a des chats, et puis, il y a des pierres, et puis, il y a des gens qui marchent. Et puis, il y a 12 bornes à faire, donc ça va prendre 3 heures parce qu'ils ne marchent pas vite comme Philippe. Et puis, ils discutent, et puis, on va faire ce voyage avec eux, hein, et on va avancer. Et là, ils discutent, et pourquoi ils sont tristes. Et puis, à un moment, le moment se termine. Et on dit, c'est drôle, mais. Oui, je l'ai vu passer. La fugacité des rencontres avec Jésus-Christ. Pouf, il était là, il n'y est plus. Mais il était là. Et là, ça nous met en mouvement. Et ce qu'on aimerait vraiment, c'est que ce qu'on peut faire dans nos actions pour notre communauté soit autant que possible le résultat de ce processus-là. On a rencontré Jésus-Christ, on est témoin. Et alors, on se met en route pour aller en parler. Seigneur, on te remercie parce que dans ce que tu as prévu pour nous, on ne maîtrise rien. Mais toi, tu as tout dans tes mains et on veut te faire confiance, Seigneur. Tu sais où tu nous attends, tu sais où est le prochain rendez-vous, tu sais comment, tu sais quand, tu sais de quelle façon. Et nous, on aimerait tellement savoir, fixer, comprendre, mettre dans un agenda et on ne peut pas t'enfermer, heureusement, Seigneur. Alors on te demande... C'est naturellement impossible, mais de nous aider à le vivre déjà, chacun de nous, bien sûr. Et puis qu'on puisse tendre vers ça aussi dans notre vie communautaire. C'est un grand défi, ça peut faire peur. Il y a des risques, on dirait. Mais c'est tellement gratifiant, c'est tellement magnifique quand tout d'un coup notre cœur s'enflamme et qu'on se met en mouvement parce qu'on t'a reconnu, parce qu'on a mangé avec toi. Parce qu'on a partagé un bout de chemin avec toi. Alors fais ce travail dans nos vies. Merci pour toutes les fois où tu l'as fait, pour toutes celles où tu veux le faire. Et on veut s'attendre à toi et être vraiment tes témoins, Seigneur Dieu. Merci pour cela et merci pour ton amour qui nous rejoint partout où nous nous trouvons, Seigneur. Amen.